France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Tandis que le renforcement du vent à Los Angeles fait redouter une recrudescence des incendies, panique et colère sont attisées par une vague de fausses informations. Décryptage d'Omar Waman dans un instant. Le gouvernement espagnol annonce une série de mesures pour lutter contre la crise du logement. Les logements touristiques vont notamment subir une hausse de la fiscalité. Nous joindrons Mathieu de Taillac à Madrid. La tempête Dikeledi entraîne le report de la rentrée scolaire à Mayotte. En revanche, l'Assemblée a bien commencé l'examen en commission du projet de loi d'urgence pour l'archipel. Nous ferons le point avec Azaïs Perronin. Et puis voilà qui va bousculer les habitudes des téléspectateurs. À partir du 6 juin, certaines chaînes vont changer de numéro sur la TNT. Explication de Pierre Ropper. Toujours assiégé par les flammes, Los Angeles se prépare à un retour de vent violent, chaud et sec qui risque de compliquer de nouveau la tâche des pompiers. Le service météorologique américain prévoit un comportement extrême des incendies et une situation particulièrement dangereuse. Le bilan provisoire de ces feux en Californie est actuellement de 24 morts. À la détresse des habitants s'ajoutent aussi les polémiques sur la gestion des autorités locales. Polémiques amplifiées par les nombreuses fausses informations qui circulent au Marouaman. Elles sont favorisées par l'algorithme de X, le réseau social d'Elon Musk, au bénéfice de Donald Trump.
Tout le monde connaît le célèbre panneau Hollywood qui surplombe la Cité des Anges. Des images partagées sur les réseaux sociaux le montrent dévorées par les flammes. Elles sont l'œuvre d'une intelligence artificielle. Le panneau en question est à ce stade toujours intact. Autre image très partagée sur Internet, celle des pompiers de Los Angeles qui tentent d'éteindre un foyer actif en jetant de l'eau avec un sac à main. Une séquence qui a attiré de nombreux complotistes comme Alex Jones, l'un des plus connus aux États-Unis. Son tweet a été vu par plus de 22 millions d'internautes.
Regardez ça, les pompiers de Los Angeles utilisent des sacs à main pour éteindre les incendies.
Ces images n'ont pas été manipulées et ont même été diffusées sur un site d'information locale. Mais ce ne sont pas des sacs à main que les pompiers ont utilisés, mais des sacs à eau, plus pratiques que des lances ou des tuyaux d'arrosage face à des petits foyers, comme c'est souvent le cas depuis plusieurs jours en Californie. Ces fausses informations visent à discréditer l'État de Californie et son gouverneur Gavin Newsom, attaqué régulièrement par Donald Trump, qui multiplie les messages sur les réseaux sociaux. Mais Gavin Newsom a confirmé l'affirmation du président élu, selon laquelle il n'y avait pas eu d'eau pour certaines bouches d'incendie, ce qui a entravé l'intervention d'urgence.
Omar Waman. Le Royaume-Uni veut devenir un leader mondial en matière d'intelligence artificielle. Le premier ministre travailliste, Keir Starmer, a dévoilé ce matin un plan d'action pour faire de Londres l'un des foyers de l'IA dès les prochaines années. Les précisions d'Emeline Vin à Londres.
Investir dans l'intelligence artificielle pour relancer une croissance économique anémique, c'est le projet du gouvernement britannique qui débloque plus de 15 milliards d'euros pour la construction de data centers à travers le pays et la création de plus de 12 000 emplois. Avec ce plan, dévoilé ce lundi, le Premier ministre Keir Starmer souhaite faire entrer l'intelligence artificielle dans l'ADN du Royaume-Uni. Ces exemples, alléger la charge administrative dans les services publics pour les rendre plus humains, mieux repérer les nids de poules sur les routes et accélérer les démarches en général. Londres va créer des hubs IA à travers le pays, à Liverpool entre autres, où il sera plus facile de construire et donc d'attirer les investissements. Jusqu'ici, les gouvernements britanniques successifs s'étaient surtout engagés sur l'aspect sécuritaire pour se prémunir des risques liés à cette nouvelle technologie. Plusieurs grandes entreprises de la tech, comme Microsoft ou OpenAI, ont salué cette main tendue. Elon Musk, lui, n'a pas encore réagi. À la tête de sa propre entreprise d'intelligence artificielle générative, le patron de X multiplie depuis des semaines les attaques politiques à l'encontre de Keir Starmer.
Emeline Vin, correspondante de RFI et France Culture au Royaume-Uni. En Espagne, le socialiste Pedro Sanchez a lancé son grand plan logement. Le dispositif doit répondre à la crise profonde à laquelle fait face le pays, ce que le chef du gouvernement a défini comme le plus grand problème des classes moyennes. Il veut donc rendre le logement plus accessible et lutter contre les fraudes, Mathieu de Taillac.
L'opposition de droite lui avait grillé la politesse en présentant ce week-end ses propositions pour favoriser l'accès au logement, essentiellement des baisses d'impôts à l'achat que le Parti populaire pourra déployer dans les régions où il gouverne, 11 sur 17. Pedro Sanchez, lui, a répliqué par 12 mesures que prendront le gouvernement central ou le Parlement. Citons-en trois dont la première est inspirée de France, a dit le chef de l'exécutif, probablement de la garantie visale ou du locapass, Pedro Sánchez.
L'administration centrale va mettre l'argent et les garanties nécessaires pour que les citoyens puissent louer et pour que les propriétaires des logements puissent le faire avec des garanties sans assumer de risques. Nous allons proposer au Parlement d'approuver une déduction fiscale de 100% sur l'impôt sur le revenu pour les propriétaires qui louent leur logement au tarif prévu par l'indice de référence. Nous allons aussi proposer une réforme fiscale pour que les meublés les touristiques paient conformément à ce qu'ils sont, une activité économique. Parce que ce qui n'est pas juste, c'est qu'ils paient moins d'impôts que les hôtels ou que les travailleurs et travailleuses.
Airbnb, voilà l'ennemi, nommément cité, avec aussi les fonds spéculatifs et autres millionnaires hors Europe accusés de faire monter les prix. En positif, le gouvernement veut mettre en place ce qu'il appelle le cinquième pilier de l'État-providence, après la maladie, le chômage, la retraite et la dépendance. Un droit au logement digne et adéquat, c'est ce que proclame la Constitution espagnole, jusque-là de manière très théorique.
Mathieu de Taillac à Madrid. Au Liban, le nouveau chef d'État, Joseph Aoun, a nommé un Premier ministre. Il s'agit du juge Nawaf Salam, président de la Cour internationale de justice de l'ONU depuis février 2024. Est-ce l'heure de la reconstruction au Liban ? Réponse à 18h20 dans Question du soir avec Quentin Lafay et ses invités. Alors que des pourparlers sur le programme nucléaire iranien sont en cours, entre Téhéran d'un côté, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni de l'autre, on apprend la libération d'une germano-iranienne après 4 ans de détention. Naïd Taghavi, militante des droits des femmes, avait été condamnée à plus de 10 ans de prison en août 2021 pour appartenance à un groupe illégal et propagande contre le régime. Sa santé s'était considérablement détériorée dans la prison d'Evin à Téhéran. François Bayrou doit prononcer son discours de politique générale dans moins de 24 heures et pour le moment, eh bien, on est toujours dans le flou. Les tractations se poursuivent. Le patron des socialistes, Olivier Faure, doit encore rencontrer le Premier ministre ce soir. Au cœur de la négociation avec la gauche, il y a le sujet de la réforme des retraites. Les socialistes réclament une renégociation et une suspension de la réforme. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Mais à ce stade, rien n'est encore finalisé.
Rien n'est finalisé, non. Selon un proche d'Olivier Faure, à la mi-journée, Matignon envisageait d'annoncer une suspension de la réforme des retraites pour le mois d'octobre prochain, c'est-à-dire dans 9 mois, après donc une période de renégociation de cette réforme qui pourrait se tenir entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. À ce stade, ça ne convient pas aux socialistes qui réclament une suspension immédiate. Mais le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui doit rencontrer François Bayrou dans les heures à venir, a bon espoir d'aboutir, car de vraies négociations sont en cours, assurait-il hier sur BFM TV.
Comprenons-nous bien, quand on parle de négociation, il ne s'agit pas, comme souvent, d'un espèce de simulacre dans lequel chacun arrive, rentre, sort, fait sa déclaration et puis basta. Nous amenons à la fois des revendications, mais aussi des solutions techniques, financières, qui permettent d'avancer. C'est une vraie discussion. Et donc, comme ça n'est pas un simulacre, comme ça n'est pas simplement une comédie, eh bien, ça prend du temps.
Et non seulement ça prend du temps, mais personne ne dévoile véritablement ce qui est en train d'être négocié. Et donc, en attendant, personne ne sait sur quel pied danser, dans le camp présidentiel en particulier, où l'on appréhende l'annonce d'une éventuelle suspension de la réforme. Certains s'y résolvent, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, hier sur France Inter.
Moi, ce qui me convient, c'est qu'on rediscute. Après, s'il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, moi, je n'y suis pas opposée par principe.
D'autres, à l'image du député Renaissance du Val-de-Marne, Mathieu Lefèvre, sur RMC, ne veulent pas en entendre parler.
Suspendre, c'est abroger. Il faut arrêter de jouer sur les mots. Qui va reprendre une réforme dans 6 mois? Avec quelle légitimité politique? C'est la prochaine élection présidentielle qui tranchera ce sujet. Mais ça n'est pas une assemblée aussi fragmentée qui aura le courage de le faire.
Le résultat des négociations en cours est attendu demain 15h avec la déclaration de politique générale de François Bayrou. Ironie du sort, c'est Elisabeth Borne, numéro 2 du gouvernement, qui, comme le veut l'usage, lira la déclaration de politique générale devant le Sénat, en même temps que le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Elle pourrait donc elle-même devoir annoncer la suspension et la renégociation d'une réforme qu'elle aura fait adopter 2 ans auparavant.
Stéphane Robert, l'alerte rouge a été levée à Mayotte après le passage de la tempête Dikeledi. Mais la rentrée scolaire va devoir être repoussée. Les enseignants ne pourront pas retourner dans leurs établissements avant la semaine prochaine. Cet après-midi, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a été auditionné à l'Assemblée par la Commission des affaires économiques. 1 mois après le passage du cyclone Chido, il a présenté devant les députés le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Bonsoir Azaïs Perronin.
Bonsoir.
Le texte comporte 22 articles. Il doit permettre d'accélérer et de faciliter la reconstruction des écoles, mais aussi, Azaïs, des infrastructures et des logements.
Oui, avec ce texte, Manuel Valls souhaite apporter une première réponse législative d'urgence à la crise.
J'ai un mandat clair, celui de refonder Mayotte. Nous avons cet après-midi un mandat clair, poser les premières pierres de cette refondation. Et refonder, et je le dis sans détour avec clarté, cela va beaucoup plus loin que reconstruire. Mais reconstruire est un préalable incontournable pour répondre aux urgences et envisager ensuite une véritable refondation. C'est la responsabilité qui nous incombe à tous.
Pour coordonner cette reconstruction, le texte prévoit un opérateur unique, un établissement public dédié spécifiquement à cette tâche. Pour aller vite, le projet de loi doit également permettre de déroger aux règles d'urbanisme pendant 2 ans, avec par exemple des dispenses de formalité. Et toujours pour des questions d'efficacité, les expropriations seront rendues possibles avant que le propriétaire puisse être identifié, avec la possibilité de l'indemniser au besoin a posteriori. Des députés de différents bords alertent, construire vite ne doit pas signifier construire mal, et il rappelle que les infrastructures devront bien respecter les normes de sécurité. Le texte contient également des mesures sociales, comme la prolongation des droits des bénéficiaires des indemnités chômage et aides sociales. Sur ce point, le député PS réclame d'aller encore plus loin.
Je tiens également à attirer votre attention, monsieur le ministre, sur le fait qu'à l'issue de ces échéances, s'appliqueraient à Mayotte les inacceptable réforme de l'assurance chômage et du RSA en cours. Des adaptations sont nécessaires à minima pour le RSA. Comment imaginer dans les circonstances, au-delà du débat de fond, que cette mesure, que les bénéficiaires puissent satisfaire à la condition des 15 heures d'activité ?
Enfin, la rapporteure issue du groupe Liotte ainsi que les députés LR et RN de la commission regrettent que le texte n'aborde pas la question de l'immigration. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, indique que ce volet fera partie d'un prochain texte contenant des mesures de plus long terme prévues en mars.
À Mayotte, il faut de nouveau déblayer les routes et continuer d'aider ceux qui ont tout perdu. Une ONG internationale, World Central Kitchen, leur propose des repas cuisinés. Cette organisation américaine, créée par le chef José Andrés, intervient aussi bien à Gaza qu'en Ukraine. Elle est à Mayotte depuis 3 semaines et réussit à livrer des repas dans pratiquement chaque village. Écoutez le reportage de Fabien Gosset et Béatrice Duguay.
Oui, au menu ce midi, on cuisine du riz et du blanc de poulet. Là, en ce moment, on n'a que du blanc de poulet et des légumes. Mais on essaie de bien préparer pour que les gens savourent.
Et ça sent bon, effectivement. Fatima, la présidente de l'association Malaz à Soie, fait plutôt traiteur pour les fêtes d'habitude, mais quand les 25 membres de World Central Kitchen sont arrivés avec leur batterie et leur gaz, elle est devenue chef d'orchestre.
Un carton et demi pour la nyungu. Il faut vraiment qu'on essaie d'aller vite. Et pour ça, il faut vraiment que tout le monde travaille en même temps et que tout soit prêt quand il faut.
Dans cette MJC de Ngombani à Mamoudzou, transformée en cuisine collective surchauffée, une trentaine de femmes du quartier sont au fourneau. Elles seront bientôt le double et toutes payées, garantie Shangarm de World Central Kitchen.
C'est pour aussi aider les gens locaux pour reconstruire leur vie, pour construire leur maison, pour occuper de leur famille. Et comme ça, c'est important.
Notre but, c'est de donner un appui à la population sinistrée.
Delphine Bedu, chargée de mission dans l'ONG.
Et une fois que les choses reviendront vers la normalité, à ce moment-là, on se retirera. On n'est pas là pour faire de la nourriture sur le long terme. Mais effectivement, je pense qu'on va être là un peu plus longtemps qu'habituellement sur cette réponse.
En attendant, World Central Kitchen livre 25 000 repas par jour, principalement aux démunis des bidonvilles.
Béatrice Duguay et Fabien Gosset à Mayotte. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts. Cela fait suite à un signalement de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui remonte à 2021. Sont visés des postes occupés au Canet, dans les Alpes-Maritimes, une ville longtemps dirigée par la sœur de Philippe Tabarot, Antoine Marette.
Michel Tabarot a été maire du Canet jusqu'en 2017. Date à laquelle elle crée le groupement d'intérêt public touristique et culturel de la commune, dont son frère devient directeur en 2018. L'enquête qui est toujours en cours va tenter de déterminer si Michel Tabarot a créé cette structure dans le but d'y placer son frère. Philippe Tabarot a pris la direction du GIP juste après avoir quitté ses fonctions de directeur de cabinet de la mairie du Canet. L'enquête porte également sur un cumul de fonctions et de mandats très lucratifs. Selon Le Monde, l'actuel ministre chargé des Transports a déclaré pour 2019 près de 138 000 euros nets de revenus. Il est cette année-là à la fois directeur du GIP, chargé de communication de la ville du Canet, mais aussi élu au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il est vice-président chargé des Transports. Philippe Tabarot a fait part aujourd'hui de sa sérénité dans cette affaire. « Je n'ai rien à me reprocher, j'ai travaillé de manière effective avec des rémunérations qui sont encadrées dans la plus grande transparence », s'est-il défendu face à la presse. Il assure ne disposer d'aucune information sur le contenu de cette procédure et il ajoute n'avoir jamais été entendu ni sollicité par la justice.
De nouvelles révélations viennent encore noircir l'image de l'abbé Pierre. Grande figure de la lutte contre le mal logement, le prêtre était déjà tombé de son piédestal en juillet dernier avec les révélations de cette femme sur des agressions sexuelles. En septembre, 17 nouveaux témoignages avaient fait état d'abus et dans un cas de viol. Bonsoir Cécile de Carvaz-Doué.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
Aujourd'hui, un nouveau rapport apporte encore d'autres révélations.
Oui, dans le rapport rendu public aujourd'hui par Emmaüs France et que je viens de lire, le cabinet Egae, mandaté pour faire la lumière sur les agissements du prêtre, fait état de 9 autres victimes dont le témoignage a pu être corroboré par les archives d'Emmaüs qui sont publiées en annexe de ce rapport. Ce qui porte à 33 le nombre d'accusations corroborées visant l'abbé Pierre, qui fut longtemps, je vous le rappelle, parmi les personnalités préférées des Français. Mais le cabinet Egae précise que ces témoignages sont très loin d'être exhaustifs et que la ligne d'appel à témoignages est toujours en activité au moins jusqu'au 31 janvier prochain. Ce qui attire l'œil dans ce nouveau rapport, c'est la répétition presque méthodique du mode opératoire de celui qui se révèle être un abuseur en série. Les victimes désignées dans le rapport par des lettres racontent toutes le même geste sur les seins, les parties sexuelles, puis le baiser forcé et toujours la sidération des jeunes femmes face à un vieil homme. Dans ces nouveaux témoignages, certaines sont des salariés d'Emmaüs, d'autres des volontaires en humanitaire, il y a une hôtesse de l'air ou un membre de sa famille. Et puis, il y a cet homme qui n'a pas souhaité raconter les circonstances de son viol, mais à qui l'abbé Pierre aurait imposé un acte sexuel par pénétration lorsqu'il était petit garçon. Le précédent rapport de septembre faisait déjà état d'une fille mineure de 16 ou 17 ans, victime elle aussi de l'abbé Pierre. Mais le cabinet Egae, qui a identifié en tout 57 victimes, précise que beaucoup, aujourd'hui, ne veulent pas témoigner ou sont décédés avec leurs secrets. En annexe du rapport, on publie ainsi des pages titrées d'un ouvrage en anglais titré « The Discovery of Richard Hatch », décédé depuis, une autobiographie dans laquelle il raconte notamment son enfance de petit garçon juif caché chez des capucins où un abbé Pierre venait assouvir ses pulsions pédophiles dans le dortoir. Il décrit l'enfant de 12 ans dans le lit à côté de lui, pétrifié et silencieux lorsqu'il était abusé la nuit par l'abbé Pierre. Et le rapport raconte encore les photos Polaroid prises par Henri Grouès, le nom civil de l'abbé Pierre, et gardées dans un tiroir comme autant de trophées très trop nombreux de toutes ces victimes.
Cécile de Carvaz-Doué, l'Arcom a annoncé aujourd'hui la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT, annonce qui fait suite à la remise en jeu des fréquences de C8 et Énergie 12 qui tireront leur révérence le 1er mars prochain, Pierre Robert.
C'est l'annonce d'un grand chambardement qui apporte un peu plus de logique dans la numérotation des chaînes de la TNT. Le président sortant de l'Arcom, Roch-Olivier Maistre, l'avait évoqué par le passé. Il souhaitait créer deux groupes de chaînes sur la TNT. C'est désormais chose faite. Ainsi, en passant sur la 4 en lieu et place de Canal+, France 4 permet de créer un bloc audiovisuel public allant des canaux 2 à 5. Autre nouveauté, la création d'un autre bloc de chaînes d'information. Cette fois, les canaux 13 à 16 seront récupérés respectivement par BFM, CNews, LCI et France Info. Ces changements de numérotation ont été rendus possibles, il faut le rappeler, par l'arrêt des chaînes Énergie 12 et C8 décidés par l'autorité de régulation. En représailles, le groupe Canal a décidé de retirer plusieurs de ses chaînes de la TNT, dont Canal+, une décision qui avait en réalité plus à voir avec la stratégie de plateformisation du groupe. Ces disparitions de chaînes ont donc libéré tour à tour les canaux 4, 8 et 12, très convoités car plus le numéro est bas, plus les audiences sont importantes. La chaîne parlementaire Public Sénat prendra donc le numéro 8, l'Arcom estimant que sa programmation complète celle d'Arte, en 7, Gulli passe quant à elle sur le canal 12. Enfin, les deux nouvelles chaînes à apparaître sur la TNT, CMI TV, du groupe éponyme du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et OFTV, du groupe Ouest France, récupèrent respectivement les numéros 18 et 19. Cette nouvelle numérotation prendra effet le 6 juin prochain.
La météo, le temps restera très ensoleillé demain, sauf sur le nord des Hauts-de-France où des nuages bas viendront couvrir le ciel. Il fera très froid au petit matin avec des gelées généralisées. Il pourra faire moins 10 sur le Limousin. L'après-midi, les températures ne dépasseront pas 1 à 8 degrés en général, 9 à 15 près de la Méditerranée.